C'est votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appelez-nous. Exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Alexis Fricker.
Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, appel sur l'actualité. Le débat, c'est durant les 20 prochaines minutes. Débat consacré aujourd'hui à la présidentielle au Mali qui se déroulera dans 6 jours, dimanche prochain, le 29 juillet. Encore 5 jours de campagne jusqu'à vendredi. Pour poser le contexte, 24 candidats sont en lice, dont le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, qui brigue un second mandat. Mais il y a de nombreuses questions, de nombreuses incertitudes aussi qui sont liées au contexte sécuritaire, plus particulièrement dans le nord et le centre du pays. Et puis il y a aussi une polémique, on en parlait déjà tout à l'heure, qui est née ce week-end concernant la transparence de ce scrutin, concernant les fichiers électoraux et concernant aussi la distribution des cartes d'électeurs. Tout cela vous a fait réagir, bien évidemment, et nous sommes en ligne à présent avec Adama. Bonjour Adama.
Bonjour.
Vous nous appelez de Bamako, Adama. Vous nous disiez que vous, ce qui vous pose question, c'est la transparence de l'élection.
Oui, la transparence de l'élection est une vraie problématique aujourd'hui. Vous venez de le dire, cette semaine-là, nous avons appris, et ce n'est même pas un fait nouveau. Je pense que depuis la proclamation donc de l'audit du fichier, il y avait eu déjà des voix qui s'étaient déjà élevées par rapport à des doutes énormes. Et ce qui rend aussi le doute autour de ça, c'est que le gouvernement n'a jamais voulu en quoi rendre public le contenu de ce fichier. Si on le met en... on commence à le faire sortir dès maintenant, ça veut dire que quelque part, tout ce qui a été dit et qui s'est dit aujourd'hui en termes de non-transparence des élections, aujourd'hui, sont avérés.
Oui, alors, quand vous parlez Adama de transparence et d'audit du fichier, vous parlez bien du fichier du 27 avril qui répertoriait 8 millions d'électeurs, contrairement au fichier du début du mois qui avait été mis en ligne par les autorités et qui lui pointait 8,1 millions d'électeurs, et donc cela déjà crée une différence en termes de d'électeurs inscrits et donc de votants potentiels pour cette élection. On a eu un petit problème de liaison avec vous, Adama. En tout cas, merci d'avoir participé à l'émission. On retrouve à présent Abdoulaye. Bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous les auditeurs de Grand Tour.
Auditeur de RFI à Bamako également. Abdoulaye, d'après vous, comment vont se dérouler ces élections dimanche prochain?
Écoutez Alexis, comme le président auditeur l'a dit tout de suite là, c'est vrai que les élections de cette année, quand même, moi je trouve qu'il y a eu beaucoup de manque d'informations. Mais c'était pas comment...
De
manque d'informations en fait.
Ah, oui.
En 2013, je me rappelle qu'il y a eu une grande campagne pendant pratiquement 2 mois. Donc on avait sensibilisé les gens par rapport aux élections. Et puis on avait même donné beaucoup de temps aussi pour pouvoir retirer les cartes NIA aussi. Mais cette année, je vois que c'est pas tellement le cas. Et puis aussi, il y a aussi le problème sécuritaire qui se pose aussi sur l'ensemble du territoire. Donc moi, je suis sûr et certain que partout au Mali, on ne pourra pas voter, malheureusement, parce qu'il y a des zones entières de l'État qui échappent encore au contrôle même de l'État, et puis même des forces internationales.
Ouais, notamment dans le nord du pays, où la situation sécuritaire est extrêmement dégradée dans les régions de Tambouctou, Gao, Kidal, ou même dans le centre, vers Mopti et vers Sévaré. On a vu également qu'au niveau des taux de distribution des cartes d'électeurs, c'était très aléatoire en fonction des zones du pays, et même à Bamako, où apparemment c'était pas si simple que ça d'avoir un taux de distribution de cartes d'électeurs qui, je crois, il y a une semaine devait avoisiner les 45%, donc ce qui à l'approche du scrutin n'est franchement pas beaucoup, en tout cas pour pouvoir mobiliser les électeurs.
Oui, tout à fait, parce que je pense que les Maliens, quelque part, je me dis que les Maliens, quand même, sont un peu découragés aussi. Voilà, parce que en 2013 aussi, il y a eu beaucoup de promesses qui se sont tenues, mais malheureusement, en 5 ans, on voit que les choses se sont empirées, donc ça a créé beaucoup moins d'engouement. Voilà, je me rappelle qu'en 2013, on frôlait pratiquement au premier tour les 70%. Mais là, vous venez de le dire vous-même, voilà, là, on est à peine à 45% à Bamako. Donc, imaginez un peu la situation à l'intérieur du pays. Et puis, en pleine période d'hivernage aussi, ça va être compliqué aussi dans les zones rurales, et les gens aillent retirer leurs cartes.
Oui.
Donc, je veux dire qu'il y a tous ces soucis-là à régler. Mais malheureusement, Je ne sais pas, on dirait que tout le monde essaie de prendre le train à la dérive, mais malheureusement. Donc, ok, je ne comprends pas. Je suis quand même un peu sceptique quand même, voilà, par rapport à l'élection du dimanche quand même.
Et vous avez réussi à récupérer votre carte d'électeur, Abdoulaye?
Non, pas encore, parce que comme je l'ai dit, voilà, en 2013, on nous avait même envoyé des SMS en fait pour orienter les gens, mais malheureusement, cette année, c'est pas du tout le cas, parce que des bureaux de vote ont changé. Maintenant, on aurait voulu quand même qu'on nous informe un peu par rapport aux démarches à suivre aussi. Mais comme je l'ai dit, il y a une espèce de flou par rapport à tout ça, quoi. Voilà, donc on essaie de tout gérer dans ces 5 jours. Maintenant, moi, je trouve que c'est un peu dommage quand même, voilà, qu'on en arrive là, quoi.
Alors, le gouvernement a décrété 2 journées citoyennes, hein, des jours fériés, pour encourager le retrait de ces cartes d'électeurs. Et un de ces jours, bah, c'est encore aujourd'hui. Donc, peut-être pourrez-vous en profiter, en tout cas, Abdoulaye, pour aller récupérer votre carte. Merci en tout cas d'avoir participé à l'émission. Nous sommes maintenant en ligne avec Abdelkader. Bonjour, Abdelkader.
Oui, bonjour, Alexis.
Vous nous écoutez à Gao. Quel regard portez-vous sur l'organisation de l'élection, sur l'avant-scrutin?
J'avoue que je suis très, 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 très pessimiste. Je suis pessimiste parce que depuis le 31 décembre, quand je faisais mes vœux de bonne et heureuse année, j'avais demandé à ce que le gouvernement prenne des dispositions pour déjà commencer à organiser les élections présidentielles. Mais malheureusement, nous sommes à quelques jours, dimanche prochain, des élections. Il y a encore des endroits où les cartes n'ont pas été retirées,
oui.
La communication ne marche pas, et le gouvernement tout récemment a été pointé du doigt de fraude concernant le fichier électoral, et malheureusement, le gouvernement n'a apporté aucun démenti. Ça, c'est encore très grave, parce que nous savons qu'en 2013, le président actuel est venu par la faveur du coup d'État, et ce coup d'État a poussé les gens à voler massivement dans les bureaux, dans les centres de vote, n'importe comment.
Alors,
donc aujourd'hui, c'est le même scénario qui se reproduit.
Alors Abdelkader, je vous laisse responsable de vos propos. Hein, malgré tout, cette élection en 2013, on va rappeler les chiffres très très rapidement. Ibrahim Boubacar Keïta a été élu avec plus de 77,6% des voix face à Soumaïla Cissé, qui est à nouveau candidat pour cette élection parmi les 24 candidats au total. Et le président Ibeka avait obtenu un peu moins de 40% des voix au premier tour. Voilà, en tout cas, vous, c'est votre opinion, c'est votre position par rapport à la victoire du président Ibeka en 2013. Cette année, comment voyez-vous justement la question des cartes d'électeurs? Vous dites que tout le monde n'est pas suffisamment informé. Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous qui ne savent pas comment faire?
Mais non seulement je connais des gens qui ne savent pas comment faire, mais en plus de cela, comme mon prédécesseur le dit, ils ont donné un code pour qu'on puisse mettre le numéro de la carte NINA et aller chercher sa carte électeur. Ça marche dans certains cas. Moi, je suis à Gao et le réseau, c'est zéro. À Bamako, je l'ai fait, j'ai retrouvé le numéro de mon bureau de vote, le numéro 23 à Kalabankoro. Ouais. Et je vous dis, je me suis arrêté, il y avait un monde fou, bizarre, dans un désordre total. J'étais obligé d'abandonner après 2 jours. Finalement, j'ai envoyé mon jeune frère passer toute une journée pour récupérer la carte. Les gens n'ont pas la patience,
donc,
surtout dans les grandes villes.
Donc à Gao, Abdelkader, si je vous comprends bien, les conditions de tenue du scrutin sont a priori difficiles.
Dans la ville de Gao, on peut dire que c'est acceptable, mais quand on regarde les communes nomades,
oui.
Mais c'est dans un désordre total. On est sûr et certain également que le retrait massif des cartes au niveau de Kidal et dans ces communes nomades-là prouve à suffisance que l'État n'a arrangé les conditions que là où elle est sûre de pouvoir vraiment tricher. Sinon, les cartes électeurs, aujourd'hui, leur retrait, c'est un problème.
Donc ce que vous nous dites, hein, si on comprend votre message, Abdelkader, c'est que l'État est absent, en tout cas de ces communes nomades dans la région de Gao. Je vous remercie d'avoir participé à l'émission. On part maintenant vers l'ouest du Mali, à Kaye. Bonjour Mokhtar.
Bonjour Alexis, bonjour à tous les auditeurs de Kaye.
Alors comment percevez-vous l'élection dans 6 jours, cette présidentielle?
Alexis, permettez-moi de dire, moi aujourd'hui j'ai ma carte d'électeur, je l'ai eu à peine à 3 minutes ici. Maintenant, la distribution, elle est faite avec des commissions administratives qui sont composées des partis politiques.
Oui.
Donc, s'il y a un cafouillage, je pense que ce serait, à mon sens, ce serait prématuré de dire que c'est la faute a priori de l'État, mais ça, c'est l'organisation interne des éléments des bureaux de vote. À nous, à Cahiers, on n'a pas essentiellement de problème parce que tous ceux qui ont souhaité avoir leur carte, ils partent, ils arrivent à avoir ça facilement. Et Abdelkader l'a dit, le gouvernement a mis un réseau et a mis des numéros des opérateurs pour qu'on puisse rechercher les cartes d'électeurs avec des SMS. Maintenant, ceux qui ne sont pas intellectuels, ils n'ont qu'à approcher les dirigeants de leur parti ou bien les dirigeants de leur candidat
oui.
pour qu'on les assiste.
Oui, pour demander de l'aide, en fait, tout simplement, pour connaître la procédure à suivre, pour obtenir ce sésame, pour aller voter.
Alors, c'est le bon sens, quoi.
Oui.
C'est le bon sens. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, que ça soit Bamako, vous avez parlé du cas de Bamako. Dans l'histoire des élections du Mali de 1945 à aujourd'hui, Bamako est la localité qui vote le moins dans l'histoire des élections au Mali. Okay?
Oui.
Au contraire, c'est les régions qui ont un taux de participation élevé. Je mets quiconque au défi de prouver une seule fois que le taux de participation de Bamako a atteint les 40%. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire des élections au Mali. Je sais de quoi je parle très bien pour avoir fait la première étude sur les élections au Mali de 1945 à 2004.
Alors malheureusement Mokhtar, moi je peux rien vous répliquer ou vous rétorquer hein, face à ce que vous me dites, parce que pour moi c'est invérifiable. Mais en tout cas je vous remercie de nous avoir donné votre position et votre avis sur cette présidentielle du 29 juillet prochain. Quelques réactions d'auditeurs sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, et concernant notamment les cartes d'électeurs. Basse par exemple lui pointe malheureusement le risque de fraude électorale. On en parlait tout à l'heure avec cette polémique hein, qui est née le week-end dernier, que je rappelle rapidement, avec ce fichier électoral que dénonce le camp de Soumaïla Cissé, le principal candidat d'opposition. Une différence d'à peu près 100 000 électeurs entre un fichier qui a été mis en ligne le 4 juillet et un fichier audité par les organisations par l'organisation de la francophonie, qui avait lui été dévoilé le 27 avril. Sachez qu'aujourd'hui, il y aura une réunion des partis politiques et des observateurs convoqués par le directeur général des élections. Mais l'URD de Soumaïla Cissé refuse d'y participer. Autre réaction sur Facebook, d'une tonalité plus optimiste hein, de la part de Shérif, qui estime que beaucoup de cartes d'électeurs malgré tout sont arrivées à destination et que la sécurité, elle va être assurée parce que l'État va déployer ses forces de sécurité avec l'appui aussi des partenaires du Mali, la MINUSMA, Barkhane et les forces du G5 Sahel. Il est 10h53, le débat se poursuit encore durant 7 minutes. Un numéro de téléphone, 339-693-693-70. Avec nous, en ligne à présent, Badara, bonjour.
Oui, bonjour Alex.
Vous nous écoutez de Bamako. Quel est votre sentiment à 6 jours du scrutin?
Moi, je suis dans un sentiment plus qu'optimiste. Parce que il y a de cela plus d'un an, des voix se sont élevées pour dire qu'on ne pourra pas tenir ces élections et aucune condition sécuritaire ni organisationnelle n'est réunie. Aujourd'hui, la réalité vient de rattraper tous ceux qui pensaient qu'on ne pourrait pas tenir ces élections. Depuis le début des campagnes jusqu'à aujourd'hui, personne n'a entendu parler d'un incident sécuritaire, ni à l'intérieur, ni au nord, ni au centre du Mali, pour dire qu'on ne pourrait pas tenir ces élections. La preuve en est que le président de la République lui-même s'est rendu à Kidal dans un hélicoptère de l'AMINUSMA pour prouver combien vaut cette paix
oui.
et combien vaut l'appui de la communauté internationale. Moi, je crois qu'il ne faut pas que nous soyons des prêcheurs, mais de mauvais augure pour notre pays. Ceux qui se sentent aujourd'hui en faiblesse, en déliquescence, ont peur d'aller aux élections parce qu'ils sentent déjà qu'ils vont perdre ces élections-là. Sinon, crier qu'il y a des fraudes, ça a toujours été comme ça. Dans n'importe quel pays au monde, on a toujours crié qu'il y a des fraudes. Mais ce qui est certain, le ministre porte-parole du gouvernement l'a même réaffirmé hier soir, il n'y a qu'un seul fichier unique et l'élection se tiendra parce que les cartes d'électeurs ont été établies sur la base de ces fichiers-là.
Alors actuellement, concernant les cartes d'électeurs, hein, le dernier pointage, c'est 62% de taux de retrait dans le pays. Ça veut dire qu'il reste en 6 jours encore, même moins de 6 jours, 38% de ces cartes qui ont été imprimées, qui doivent être retirées, ce qui est quand même énorme. Je me permets toutefois de faire encore une précision, Badara. Dara, parce que vous nous disiez qu'il n'y a aucun incident sécuritaire qui est intervenu. Je me permettrai quand même de signaler que à la fin du mois de juin, il y a eu une attaque contre le quartier général de la force militaire G5 Sahel à Sévaré. Puis quelques jours après, le 1er juillet, une attaque contre un convoi de Barkhane près de Gao. Certes, ça visait des militaires et des forces déployées dans le pays, mais malgré tout, ce sont des incidents à signaler et qui ont quand même fait des victimes. Et puis hier encore, dans la région de Ségou, il y a 11 djihadistes qui ont été tués et un soldat malien également dans une embuscade. Merci Badara d'avoir participé à l'émission. Nous sommes en ligne à présent avec un auditeur à Paris. Bonjour Charlie.
Bonjour monsieur Alexis Fricker.
Alors, Charlie, est-ce que vous avez votre carte d'électeur ?
Tout à fait. C'est la moindre des choses quand on veut...
Et vous l'avez eu facilement ? Vous l'avez retiré facilement ?
Absolument. Parce que tout a été mis en œuvre pour que les choses puissent se diligenter de manière très facile. Il suffit d'ailleurs de taper, comment dirais-je, d'introduire son identifiant de carte NINA sur... sur Internet pour savoir exactement où est-ce qu'il faut aller récupérer et dans quel centre. Et là, vous trouverez qu'il y a une certaine fluidité qui permet de récupérer sa carte NINA. Mais avant tout cela, moi, j'aimerais surtout, sans vouloir refaire une rétrospective de l'histoire...
Alors, évidemment, on va éviter la rétrospective. On va même faire assez vite, Charlie, parce qu'il y a encore deux auditeurs auxquels j'aimerais donner la parole derrière. Alors, allez-y.
Oui, exactement. C'est au regard du chaos et des événements malheureux de 2012 à la stabilité que connaît aujourd'hui le Mali, moi, je trouve que Ibeka est incontestablement l'homme de la situation. Il est celui qui a quand même sorti le Mali de ses méandres, les dépoussiérés, les relever pour les mettre les hisser au sommet de la diplomatie internationale. Il est parvenu à imposer l'objectif principal que tient tous les Maliens à cœur, celui d'un Mali un et indivisible à travers la signature des accords d'Alger. Sur le plan économique, le Mali est aujourd'hui dans l'organisation notée par les organismes internationaux chargée, comme étant la troisième économie de l'IMOA. Sur le plan militaire, avec l'adoption de la programmation militaire, les renforcements des capacités opérationnelles a permis une montée en puissance de nos forces armées. Oui. Et vous savez, concernant ces adversaires, si je veux dire un mot, je sais que beaucoup reste à faire, mais en ce qui concerne ces adversaires, au regard de leurs actifs et de leurs passifs, je dirais quand même que Soumaïla Cissé, qui fut ministre des Finances, ministre de l'Environnement, directeur général de la CMDT, de longue date et en des périodes fastes de l'histoire du Mali, a été celui qui a mis la seule entreprise pourvoyeuse d'emploi dans un état de déliquescence. Et quant à Cheikh Modibo Diarra, lors de son passage à la primature, il nous aura tout simplement démontré...
Qui fut Premier ministre de la transition en 2012. Je suis désolé, je vous interromps, Charlie, car j'aimerais simplement qu'on écoute Jacques, qui est également à Paris. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre interlocuteur précédent.
Alors justement, très rapidement, Jacques, concernant le président Ibrahim Boubacar Keïta.
Alors, moi, je suis assez atterré par la suffisance du camp présidentiel qui juge son bilan positif. En effet, depuis 5 ans, très peu des promesses ont été tenues. Le Nord, la situation s'est peu améliorée. Les accords d'Alger ont été respectés avec modération.
Oui, ça reste
surtout, il y a une déstabilisation du centre qui est importante. Le centre est complètement déstabilisé, des conflits ethniques entre les Peuls et les Dogons. On a dit attisé par les milices, mais enfin, je ne sais pas. Épuration, alors ça c'est grave, part de l'armée, ratissage ethnique.
Jacques, je me permets de vous interrompre, je suis désolé, parce que l'émission touche à sa fin. On a compris en tout cas que vous mettez une nuance par rapport à notre auditeur précédent concernant le bilan du président Ibrahim Boubacar Keïta qui brigue un second mandat. Vous parliez des conflits entre Peul et Dogon. Moi, je précise que selon les chiffres de l'ONU, depuis le début de l'année, on dénombre 289 morts parmi les civils et notamment dans la région de Mopti. Je vous remercie, Jacques, d'avoir participé, comme tous les autres.